Tous, c'est toujours un plaisir d'être là. Je commence à prendre mes marques. Ça fait quelques années qu'on passe ici. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, très brièvement, nous avons habité ici à Lorient depuis pendant je ne sais pas combien, une dizaine d'années à peu près. Et puis on était parti. C'était pas assez fort. Peut-être.
C'est mes oreilles. Hein.
Ah, tes oreilles, d'accord. Ok, ça marche. Donc, voilà, on a quitté Lorient il y a un peu plus de 30 ans, 32 ans à peu près. On est à Saint-Étienne, enfin, dans la région de Saint-Étienne, parce qu'on a aussi beaucoup déménagé. Donc, voilà, donc nous avons toujours le plaisir de venir l'été ici, une petite quinzaine en général, retrouver... certaines personnes que l'on connaît, comme Michel et Jean-Marc, ça doit faire une quarantaine d'années qu'on les connaît. Et puis, je voulais aussi vous apporter, bien sûr, les salutations, parce que de Saint-Étienne, quand on se déplace, il y a toujours la pensée de la communauté dans laquelle nous sommes. Et donc, ils m'ont demandé aussi de vous saluer. Certains aussi connaissent Michel, connaissent Jean-Marc et d'autres personnes, bien sûr. Voilà. Alors ce matin, je voulais aussi vous partager quelque chose de particulier. Quand Jésus est venu sur Terre, c'était en fait dans un but bien précis. C'était une mission peut-être la plus importante, la plus extraordinaire que l'humanité ait connue. C'était de sauver le monde. C'était la mission de Jésus. Sauver le monde, en fait, d'une manière très particulière, c'est-à-dire de mourir sur la croix. Ce qui, pour, je pense, beaucoup de non-croyants, est quelque chose d'aberrant. Et pourtant, malgré la gravité, malgré l'importance de cette mission, il a non seulement eu le temps d'être présent à un mariage, mais aussi de participer au banquet qui suivait et à la fête qui suivait aussi. Alors ce que je vous propose ce matin, ben vous l'avez bien compris, c'est de voir ce texte des noces de Cana et essayer de cheminer un peu dans ce petit passage qui est très particulier et que j'ai envie de partager avec vous. Alors on va lire dans... Jean, chapitre 2, à partir du verset 1. Trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère lui dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. »
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'apporter un verre d'eau ?
Non. Non, peut-être qu'il se change en vin entre-temps, mais on va éviter pour le moment. Hein? Alors, en fait, Jésus avait compris quelque chose d'important. C'était de rencontrer les gens et parler avec eux. En fait, ça faisait partie de sa mission. En fait, Jésus est devenu homme, merci, pour être homme parmi les hommes. Le Créateur devenant la créature. Quelque chose d'incroyable. Finalement, participer au festin des noces de Cana était pour lui une occasion unique de partager la vie de son peuple et de cette façon accomplir purement, pleinement sa mission. Participer à des réjouissances et accomplir le travail, quel qu'il soit, c'est une façon aussi de trouver un équilibre dans notre vie. Un chrétien qui ne vit que pour Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, il va s'épuiser. Et ça se verra dans sa façon de se comporter. Vous savez, il n'y a pas d'opposition ni de contre-indication à avoir des moments festifs. Comme par exemple les agapes que l'on peut faire de temps en temps dans le cadre de l'Église, qui sont aussi des occasions de partager avec des personnes avec lesquelles on ne prend pas le temps de parler. Vous savez, on rentre dans l'Église, on se voit, on se dit bonjour, et puis souvent on part parce que le culte est terminé, puis qu'on a autre chose à faire chez soi, ou on a un rendez-vous ou autre chose. Et c'est vrai qu'il y a des temps aussi où il faut pouvoir être ensemble afin d'avoir cette communion fraternelle qui est absolument essentielle. Elle nous nourrit mutuellement. Et puis c'est aussi parler avec des personnes avec lesquelles on n'a pas beaucoup d'affinité. Et puis finalement, des fois on a des idées reçues sur une personne, on se dit « Oh, elle ne parle pas beaucoup », ou elle ne dit jamais bonjour, ou je ne sais pas. On a parfois comme ça des idées, et puis tout à coup, quand on est autour d'un plat ou d'un repas, on s'aperçoit que finalement, cette personne est extraordinaire, elle a plein de choses à nous dire, elle est joviale, elle est amusante, et ça fait du bien. Tout à coup, ça nous ouvre vers l'autre. Il est possible de s'inviter mutuellement aussi pour prendre un café ou un repas. Pourquoi pas faire une promenade de temps en temps après qu'on se voit ici au culte. Je le dis parce que vous le faites, je le sais. Ça nous est arrivé plusieurs fois de sortir d'ici après le culte et d'aller manger quelque part à plusieurs. Et puis après de faire une promenade ou d'aller à la plage. Enfin bref, il y a toujours des occasions pour pouvoir... être ensemble. C'est ça aussi la communion fraternelle. C'est pas simplement être à distance. On a vécu pendant 2 ans, pour la plupart à distance, en faisant des cultes. Enfin, en tout cas, à Saint-Étienne, c'était un petit peu comme ça. On faisait des cultes et puis les réunions de prière par Zoom. Alors c'est extraordinaire parce que ça nous oblige à nous dépasser. Parce que c'est vrai, c'est plus facile d'être en communion quand on est proche que quand on est loin. Mais en même temps, ça nous oblige à créer quelque chose qui fait que la communion est malgré là, même malgré la distance. Alors, comme certains d'entre vous le savent, je suis aumônier. Et cela depuis 10 ans, au CHU de Saint-Étienne, dans le service de psychiatrie. 2 fois par semaine, de 10h à midi, les malades, avec l'autorisation des psychiatres et puis des médecins, viennent vers nous. Alors je trouve ça très bien parce que c'est vrai que quand on est aumônier, normalement, on va de service en service. On rentre dans les chambres, bien sûr, avec l'autorisation des médecins, parce que des fois, on ne peut pas rentrer comme ça. L'aumônerie a des cadres bien stricts et bien réglé, parce qu'en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, en psychiatrie, quand les patients viennent vers nous, on a une salle, on nous a prêté une salle, en fait, l'hôpital nous laisse une salle pour que les malades, avec l'autorisation des psychiatres, viennent vers nous. Si on commence à leur parler d'évangile, à lire un texte, à dire, ben, ça y est, on va prier, la plupart, ils vont se sauver. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. En fait, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord de les écouter. Et puis ensuite, de se mettre à leur niveau, d'être à leur écoute. Et c'est vrai que on ne parle pas toujours de religion, même si, pour la plupart, pas tous, mais enfin la plupart savent dans quel contexte ils viennent. Mais parfois, ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aumônerie ? Des fois, certains nous disent, mais est-ce qu'on vous donne de l'argent ? Ils pensent à l'aumône, vous savez, ça vient de là, en fait. Hein, faire l'aumône, c'est... c'est réclamer de l'argent ou aller en donner. Alors, bien sûr, on leur dit non. Ici, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de liberté. Et donc, parfois, on ne parle que du beau temps ou de la famille ou du travail qu'ils font ou de savoir dans quelle ville ils habitent, etc. En général, on essaie d'éviter aussi qu'ils nous parlent de leur maladie parce que ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas psychiatres, nous ne sommes pas médecins. Donc nous n'avons pas à nous substituer à ce que font les médecins, bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très riche en échange. Riche parce qu'en fait, ça va dans les deux sens. Ils nous apportent autant que nous, on essaye de leur apporter. Alors pourquoi je vous ai parlé de la psychiatrie ? Tout simplement parce que nous devons aller vers l'autre. Je rejoins un petit peu le texte, en fait. Jésus est venu vers nous, mais pas simplement pour sauver le monde du péché sur la croix, mais aussi pour être avec nous, au milieu de nous. Quelles que soient les personnes, quelle que soit les individus, leur comportement, ce qu'ils sont. Parfois, c'est compliqué. Il y a des gens avec lesquels on n'a pas envie d'aller. Il y a des personnes vers lesquelles on n'ira jamais. En tout cas, parfois, dans notre tête, ça se passe comme ça. Après, on peut changer. Hein. Moi, c'était un peu ça aussi. Parce qu'il y a un double effet chez moi, c'est que je ne travaille pratiquement qu'avec des catholiques. Nous sommes une espèce rare, les protestants évangéliques, dans les aumôneries. Nous sommes non pas une espèce en voie d'extinction, pas du tout, mais une espèce rare. Et c'est vrai que, bon, même quand on voit les malades, il n'y en a pas beaucoup qui se disent protestants, la plupart se disent catholiques, ou pas du tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup aussi musulmans, et même de plus en plus. Il a fallu que j'apprenne aussi à connaître, entre autres les catholiques, avec lesquels, en fait, je vis des choses incroyables, extraordinaires. Finalement, je me dis, il faudrait aussi que les évangéliques, de temps en temps, fassent ce que font les catholiques, c'est-à-dire donner du temps pour aller voir des malades, par exemple, ou aller dans les prisons. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Aumônier de prison, je ne pourrais pas, mais les hôpitaux ont besoin d'aumôniers. Alors moi, j'ai pas le titre d'aumônier, je suis bénévole, mais bon, je fais le même travail. Hein. Je suis présent et je fais les mêmes choses. Et en 10 ans, on apprend, on commence à avoir de l'expérience, forcément. Donc, ça nous oblige à aller vers certains, ou certaines personnes, avec lesquelles on n'aurait jamais imaginé. Moi, il y a 10 ans, on m'aurait dit, tu vas travailler avec des catholiques. J'aurais dit, ouf, ça va pas, non, j'ai pas du tout envie. Hein. Moi, j'avais une vision très, très évangélique, oui, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme ça quand même, dans beaucoup de milieux évangéliques, où le catholique, il fallait l'éviter, parce que bon, il était dans l'erreur absolue. Mais finalement, je m'aperçois que ce sont des personnes qui ont des vies de prière, des vies où ils prennent du temps pour aller vers l'autre, des vies de foi. Alors bien sûr, ils ont une foi qui est basée sur des choses ou des dogmatiques qui ne sont pas forcément les nôtres, c'est évident. Mais en même temps, je suis certain que Dieu est avec eux. Nous, on a tendance à porter des jugements très faciles, mais en dernier lieu, c'est Dieu qui décide. Et je pense qu'on aura des sacrées surprises quand on sera avec lui. Dans les deux sens, d'ailleurs. Des bonnes et des mauvaises. Alors, vous savez, à l'époque de Jésus, les mariages, c'était des occasions de faire la fête. Bon, vous me direz qu'aujourd'hui aussi, mais c'était quand même particulier en Israël. C'était l'occasion de faire un festin, bien entendu. Ça pouvait durer plusieurs jours, voire une semaine. Beaucoup de convives étaient invités, et parfois c'était le village complet, si le village n'était pas trop important, qui avait 1000 ou 2000 habitants. Tout le monde était invité, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui refusaient l'invitation. Donc c'était quelque chose de grandiose, un mariage. Et personne n'aurait voulu manquer ce rendez-vous. Alors, on va commencer à rentrer dans le texte pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Au verset 1, la première partie du verset 1, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. Alors, vous savez que symboliquement, le troisième jour est celui de la résurrection de Jésus. Parce que bon, c'est important aussi, il y a des symboles, des fois on en use et on en exagère, mais là c'est vrai, c'est le troisième jour, ça représente aussi cette résurrection extraordinaire que Jésus a vécue. C'était finalement quelque chose comme un nouveau commencement, et pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons. C'est vrai, c'était d'abord à Cana, la première... première fois qu'il y avait un miracle, en tout cas qui nous est raconté. Et c'est là que le ministère de Jésus a commencé d'une façon concrète, réelle et extraordinaire. Alors bien évidemment, au sens premier, la phrase « le troisième jour », c'était le temps qu'il a fallu pour aller de l'endroit où Jean-Baptiste a été baptisé dans le Jourdain, pour aller jusqu'en Galilée, bien entendu. La deuxième partie du verset nous dit « La mère de Jésus était là ». Alors je me suis posé la question, pourquoi le nom de Marie, c'est-à-dire la mère de Jésus, n'est pas indiqué ? C'est vrai, le texte aurait pu dire « Marie, la mère de Jésus ». Puisque c'est... C'est tellement évident que pourquoi il dit la mère de Marie, la mère de Jésus. Alors la réponse est toute simple, c'est parce qu'en fait, elle ne veut pas se manifester en tant que personne, mais c'est en qualité de mère que Marie va jouer le rôle principal dans la suite du récit. Le texte nous montre comment elle va conduire Jésus à entrer dans son ministère. Une autre remarque étonnante, c'est que la mère de Jésus n'apparaît que deux fois dans l'évangile de Jean. Au commencement de son ministère et à la fin, auprès de la croix. Jean 19, 26 et 27. Jésus s'adresse à sa mère, il dit « Femme, voici ton fils. » Et il s'adresse à l'apôtre Jean, « Voici ta mère. » C'est les deux fois que l'on voit, les deux seules fois où Marie apparaît dans cet évangile. Le verset 2. « Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. » Alors d'abord, le texte dit clairement que la mère de Jésus était déjà présente, alors que Jésus fut invité que lorsque il arriva dans la petite ville de Cana. Le texte laisse entendre que l'invitation a été faite au dernier moment. Et finalement, si l'hypothèse est juste, c'est lors d'un événement non préparé que Jésus fit son premier miracle. Nous avons ici l'exemple de la disponibilité de Jésus à accomplir l'imprévu. Visiblement, la famille des mariés était étroitement, en fait, apparentée à celle de Jésus. Marie était, semble-t-il, plus qu'une simple invitée. Et ça s'explique par la position d'autorité, d'ailleurs, qu'elle prendra dans cette situation. La question que je me pose et qui m'interpelle aussi dans cette histoire, serais-je capable de réagir de façon juste et appropriée dans une telle situation? Est-ce que vous seriez partant pour improviser dans une situation que vous n'aviez absolument pas prévue? Parce que nous, on aime bien aussi organiser notre agenda, voilà, je ferai telle chose à telle heure, tel jour, etc. Puis tout à coup, il arrive quelque chose d'imprévu. Qu'est-ce qu'on fait? Verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, les noces pouvaient durer plusieurs jours. Et s'il y avait d'autres invités de dernière minute, comme c'était le cas de Jésus et de ses disciples, ça peut aussi expliquer le manque de vin. Je me suis demandé à quoi pensait Marie quand elle a fait cette remarque. Difficile de se mettre à la place des personnes, mais on peut quand même envisager plusieurs choses. C'est vrai que toutes les hypothèses sont possibles. Depuis l'anecdotique, la noce va être gâchée. Oh là là, ça va être terrible. La plus spirituelle, c'est le moment que tu te révèles. Songeait-elle à un miracle? Pensait-elle qu'il allait se passer quelque chose de surnaturel? Alors, il semble que oui. Étant donné la réponse de Jésus au verset 4, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» La question de Jésus qui laisse supposer en fait un empiétement de Marie sur un domaine que Jésus en fait se réservait exclusivement. D'ailleurs, par quel autre moyen que par un miracle ce problème allait être résolu? Ça paraît évident. Jésus aurait-il pu tirer d'affaire le marié autrement? Au niveau de la bienséance et du savoir-vivre, vous savez que à l'époque, manquer de vin aurait été très très mal perçu par les convives. Ça, c'est évident. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas qu'il manque quoi que ce soit lors d'un repas de noces. On a envie que les choses se fassent bien, correctement, que les gens soient accueillis, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux. Et s'il manque quelque chose, aïe, aïe, aïe. Et puis comme c'est la plupart du temps lors d'un week-end, pour s'alimenter, après trouver ce qui manque, ça peut être compliqué. Finalement, ce qu'elle voulait, c'était une assistance miraculeuse, tout simplement, éclatante, qui soit à la hauteur du Messie. Alors, d'où pouvait lui venir cette idée? Puisqu'il est bien expliqué que c'est le premier miracle qu'il fait. Elle n'avait pas cette expérience antérieure. Il semblerait quand même que c'est évident que les disciples ont dû lui en parler. Parce qu'il s'était passé des choses avant. Ils ont dû dire à Marie que voilà, que ce qui s'était passé près du Jourdain, le baptême, la parole prophétique de Jean-Baptiste, on voit ça au chapitre 1, verset 29, la parole de connaissance de Jésus sur Simon, qui sera appelé Pierre, au verset 42 du chapitre 1. Puis la deuxième parole surnaturelle de Jésus, à Nathanaël, au verset 47, ainsi que l'annonce, bien sûr, d'un ciel ouvert, avec des anges qui montent et qui descendent, au verset 51. Tout cela a forcément alimenté, si vous voulez, chez Marie, la certitude que son fils pouvait faire un miracle. Marie pouvait se dire, il n'est pas possible que mon fils ne puisse pas intervenir après tout ce que j'ai entendu dire. Et puis, le fait que Jésus arrivait entouré de ses disciples suffisait à faire comprendre que quelque chose de nouveau était enclenché. Que la période des manifestations messianiques allait commencer. Que pendant 3 ans, le Seigneur parcourrait les contrées d'Israël, qu'il ferait des miracles, qu'il chasserait les démons, qu'il donnerait des paroles de connaissance, des révélations extraordinaires. Concernant Marie elle-même, tout ce qu'elle avait enfoui au plus profond, si vous voulez, d'elle-même, dans son cœur de mère, la révélation de l'ange, bien sûr, la naissance miraculeuse, les paroles qu'il enseignait dans le temple lorsqu'il avait 12 ans, tout cela refaisait surface. Après la connaissance que nous avons de tous les miracles, nous-mêmes, nous savons ce qui s'est passé durant les 3 ans. Nous sommes encore plus avantagés qu'elle. Tout ce que nous connaissons de la vie de Jésus, elle ne le savait pas encore, puisque ce n'était pas fait. Tout cela nous montre qu'encore aujourd'hui, il peut y avoir des miracles. Encore aujourd'hui, nous pouvons vivre des choses extraordinaires. Dieu peut faire des choses, des miracles, dans la vie de ceux que nous rencontrons, à condition que nous ayons envie de les rencontrer, à condition que nous soyons d'accord d'aller vers l'autre, quelle que soit sa personnalité. Vous savez qu'en psychiatrie, la personnalité est particulière chez beaucoup. Je voudrais quand même souligner et le répéter, parce que je le dis à chaque fois, il n'y a pas de fou. Le terme fou est proscrit dans les asiles psychiatriques. Il y a des malades, des personnes qui ont des besoins. La folie n'existe pas, ce sont des maladies. La folie est un terme qui a tellement été utilisé de façon excessive pour n'importe quoi, qu'aujourd'hui on sait donner un nom, et c'est vrai qu'en général, c'est tout à fait médical. Alors, dans l'aumônerie, évidemment, nous vivons des choses aussi parfois imprévues, parce que comme les personnes sont un peu décalées avec la réalité, et donc d'un seul coup, elles vont nous dire des choses ou avoir un comportement auquel on ne s'attendait pas forcément. La même personne peut être dans un état, et puis dans une autre fois, dans un autre état, et puis encore une autre fois, dans un troisième état différent, selon leur maladie. Et des fois, il faut improviser pour faire face, ou avoir du répondant, parce que vous savez, ils ont des questions des fois très pertinentes. C'est intéressant. Voilà. Des fois, on est un peu... qu'est-ce que je peux lui répondre ? Il pose des questions sur la Bible, parfois. Moi, je ne connais pas la Bible par cœur. Il y en a qui connaissent parfois même, chez certains, la Bible mieux que moi. Alors, il faut se dire, le Seigneur est là. Et puis, des fois, on sort une parole. On ne sait pas d'où elle est venue. On est toujours deux, en psychiatrie. On est en binôme. Un homme, une femme, ou deux hommes, mais jamais deux femmes, c'est toujours un homme, une femme. Ça, c'est une question de sécurité. Et on se complète très bien, parce qu'en fait, des fois, je ne sais pas quoi répondre, et puis c'est l'autre personne qui a tout à coup une parole, qui est un répondant à la question bizarre que l'autre a posé. Bref, on est dans des situations imprévues auxquelles il faut faire face, tout comme Jésus l'a fait dans ces noces de Cana. Pour terminer avec le verset 3, Marie est restée discrète et modérée. Elle n'a pas dit à Jésus ce qu'il devait faire ou comment il devait faire. Il n'y a plus de vin. Elle met la situation, elle lui donne la situation, elle dit voilà, il n'y a plus de vin. Parce que finalement, elle devait être persuadée qu'il saurait, lui, trouver la solution. Dans nos prières, parfois, on est un peu comme ça. Quand on prie, on lui dit ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, à quel moment il doit le faire, dans quelles circonstances il doit le faire. Parce que Dieu, il ne sait pas. Non, non, nous, on sait. Donc, on connaît la situation, on connaît les problèmes, on est dedans. Donc, c'est à lui d'écouter ce que nous, on a à lui dire, parce que, bah oui, nous, on sait, on connaît. Il n'y a plus de vin. La situation est claire, elle est posée. Seigneur, c'est à toi de faire. C'est à toi d'agir. Magnifique, non ? Verset 4. Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Alors ça, c'est une tournure de phrase qui, effectivement, n'a pas toujours été très bien comprise par beaucoup de chrétiens, d'ailleurs. La traduction seconde est un petit peu ambiguë, je dirais. La version Sommer est plus claire. Il dit, « Écoute, lui dit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ?» En tout cas, la réponse de Jésus confirme, d'une certaine façon, que la demande de Marie avait une dimension spirituelle. Dès cet instant, Jésus entrait dans une phase nouvelle, consistant à ne dépendre exclusivement que de son Père spirituel, que de son Père Dieu. Et à cet instant même, Marie a compris. Elle a compris, comme tout d'ailleurs les parents le savent, au plus profond d'eux-mêmes, que leur enfant ne leur appartient pas. Il y a beaucoup de parents qui ont du mal à ça, avec ça. Quand les enfants deviennent adultes, et puis qu'il faut qu'ils partent, et qu'ils se marient, qu'ils fassent leur vie, il y a des parents qui s'accrochent à eux et qui ont du mal à les laisser partir. Alors des fois c'est l'inverse aussi, hein, des enfants qui ne veulent pas partir non plus, quitter la famille. Hein. Il y a des tanguis aussi. Mais il y a beaucoup de parents qui quand même ont du mal à lâcher prise et à laisser leurs enfants, leurs fils, leurs filles faire leur vie, décider de ce qu'ils feront, de ce qu'ils seront. Et là Marie, elle est devant ce fait. Elle n'a plus de prise sur lui. Là, elle le comprend. Là. Il ne lui restait plus que, en fait, les seules armes d'une mère, c'était l'affection inconditionnelle et la prière. Et c'est parfois difficile, voilà, de les voir partir. Alors Jésus a continué en disant, dans la deuxième partie du verset 4, « Mon nom n'est pas encore venu. » Par cette phrase, on a l'impression que Jésus hésitait, bah oui, et que c'est l'insistance discrète de sa mère qui le poussera à se manifester. Peut-être que je choque certains d'entre vous, hein. Imaginez que Jésus hésite, c'est impensable. Alors pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Bah, nous savons que Jésus était pleinement Dieu, mais qu'il était aussi pleinement homme. Verset 1 du chapitre 1 de Jean. Et puis le verset 1, verset 14, nous donne les deux explications, hein, pleinement Dieu, pleinement homme. Et dans cette situation précise, bien sûr, c'était sa part d'humanité qui peut-être le faisait hésiter sur le moment. Il savait qu'en manifestant publiquement son rôle messianique, il entrait dans une phase qui durerait 3 ans et le mènerait à la croix. Christ savait ce qui allait se passer. Il connaissait sa mission. Et le côté humanité de Jésus devait lui dire « ça va être dur, ça va être difficile ». Quel est l'être humain qui n'hésiterait pas à face à un tel destin, même si c'est pour sauver le monde? Il n'y a que Jésus qui pouvait le faire, comme l'a dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité corporellement. Vous voyez, pleinement homme, pleinement Dieu. En fait, dans le terme femme que Jésus a utilisé, il n'y a aucun irrespect, bien évidemment, mais plutôt de l'affection, comme nous l'avons vu quand il a confié, quand il confiera Marie à son disciple. Et Marie l'avait très bien compris, ce qui nous amène au verset suivant, verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Dans le texte grec, il est dit, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Quoi qu'il vous dise, faites-le. Ça veut dire qu'il va peut-être vous dire des choses bizarres, mais faites-le. Par cette expression, Marie laissait l'entière liberté d'action à son fils. Et à partir de cet instant, elle va se retirer discrètement et définitivement de la scène. Et elle reviendra dans les limites qui avaient été, en fait, qu'elle avait tenté de franchir, bien entendu. Alors, à propos des limites que parfois nous-mêmes franchissons, persuadés que ce que nous entreprenons ou espérons pouvoir faire vient toujours de Dieu. Vous savez, on a des pensées comme ça qui nous viennent, et on est persuadé que c'est Dieu qui veut nous envoyer en mission chez les papous, chez dans le sud de l'Amérique, dans l'Afrique, etc. Ou autre action d'ailleurs. Hein. Alors que parfois nous ne faisons que satisfaire nos propres désirs, nos propres ambitions, sans chercher à savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Parfois on s'obstine vers une direction qui est tellement plus spirituelle, alors que Dieu nous en présente une autre, qu'on refuse parce que peut-être qu'elle nous paraît un petit peu trop terre à terre. Nous sommes parfois tellement imbus de certitude que Dieu est obligé de placer des chicanes. Parfois, il nous met dans des situations où il n'y a plus qu'à faire demi-tour parce qu'on ne peut pas avancer plus. C'est vrai que quand on regarde les actes des apôtres, la plupart du temps, quand un de ces apôtres partait en mission, c'était avec l'accord, avec un plein accord de la communauté. C'était une décision collégiale. Ce n'était pas simplement celui qui partait qui décidait que. Mais il y avait l'accord des responsables de l'Assemblée, de l'ensemble de la communauté qui, ensemble, sentait effectivement que c'était ça qu'il fallait que la personne fasse. Mais souvent, il y en a qui partent, qui décident de quitter pour des raisons X. Vous savez, ça arrive assez souvent que des personnes quittent une assemblée. Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais bon, là, donc, elles quittent. Mais sans avoir eu l'accord ou avoir partagé avec les responsables et puis avec l'ensemble de l'Assemblée. C'est important. D'abord parce que quand on part avec cette bénédiction de l'ensemble, la porte s'ouvre. On le sait que ça va s'ouvrir parce que Dieu est là et il nous accompagne. C'est important. Verset 6. Il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Alors, vous savez, une mesure représente environ 40 litres. Ce qui fait, dans une jarre, selon qu'il y en avait 2 ou 3, 80 ou 120 litres. Multiplié par 6, ce qui fait entre 550 et 700 litres au total. Wow. Il va y avoir du monde, hein. Ou alors des gros buveurs, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est quand même considérable, hein. Donc ça donne quand même une idée du nombre de convives dans ces noces. Et quand Jésus entreprend quelque chose, finalement, il ne fait pas dans le mode minimaliste. La générosité de Dieu est telle que des fois ça dépasse nos espérances, ça va au-delà de ce qu'on aurait imaginé, quoi. Bon, il va faire quelques petites jarres. Non. Quand il entreprend, c'est dans l'abondance. Je rappelle que ces jarres étaient destinées d'abord à la purification des personnes, pour se laver les mains, et puis laver tous les ustensiles aussi, avant et après les repas, comme c'était la coutume chez les Juifs pieux. Alors au verset 7 et 8, Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres, ils les remplirent jusqu'en haut, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur de repas, et ils lui en portèrent. » À cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produisait, qui finalement justifiait la foi et la confiance de Marie. Jésus donnait l'ordre de remplir les jarres. C'est vrai qu'ils ont dû trouver ça bizarre, quoi, de remplir d'eau toutes ces jarres. Mais ils l'ont fait. En fait, cette petite phrase de Marie, « Il n'y a plus de vin », allait en fait déclencher non seulement un miracle, non seulement le premier qui sera suivi d'une multitude de miracles, mais aussi le commencement réel de la mission de Jésus venu sur terre pour sauver le monde. Incroyable. Cet instant des noces de Cana est le commencement de tout, en fait, finalement. Sa mission commence à démarrer maintenant. Elle démarre. Alors, verset 7, la deuxième partie du verset 7. « Ils les remplirent jusqu'au bord, ce que les serviteurs s'empressèrent, bien entendu, de faire. » Et le fait de les remplir jusqu'au bord, non seulement ressortir, je dirais, l'entrain avec lequel ils s'exécutèrent, mais aussi exprime, encore une fois, la générosité de Jésus. Et lorsque Jésus fait les choses, il ne compte pas. Voilà. Les serviteurs n'ont pas discuté, forts de l'ordre de Jésus, et ils n'ont pas commencé à raisonner, à réfléchir. Ça nous arrive aussi. Quand on reçoit parfois un appel, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Non, il aurait pu se dire ça, hein, vous lui posez la question, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça va servir à quoi? On a autre chose à faire, on a du travail. Mais non, ils s'exécutèrent avec entrain, hein, avec une foi simple, une foi qui n'argumente pas. Lorsque Dieu nous place en fait face à une situation qu'on n'avait pas envisagée, est-ce qu'on commence par raisonner? Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on réfléchit? On commence à réfléchir, et ça nous arrive. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est logique? On tergiverse. Et dès qu'on raisonne, c'est foutu. Le côté humain reprend le dessus. Et on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. Ils vont donc vers l'organisateur, qui avait pour fonction d'organiser la fête et de goûter les mets et les boissons, afin que tout se fasse, tout soit parfait. Verset 9. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Alors je suppose que l'organisateur était inquiet. Lui, il devait être au courant, forcément, il savait ce qui se passait. Comment sortir d'une telle situation? Il a dû se gratter la tête plusieurs fois, hein, croyez-moi. Et dans ce moment de désarroi, quelqu'un vient lui dire « On a trouvé 600 litres de vin. » Oula, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Avait-il compris ce qui se passait, contrairement aux serviteurs qui ont obéi à la parole de Jésus et qui savaient qu'un miracle avait eu lieu? Parfois, pour ne pas dire souvent, nous bénéficions des grâces de Dieu pour qu'il nous prodigue, bien entendu, sans qu'on s'en rende compte. Hein. Dieu guide notre vie. Des fois, ça passe comme ça. Il y a des choses qui se font, mais on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui est derrière tout cela. Il fait des miracles constamment dans notre vie. On continue, mais des fois, pour nous, c'est banal. Mais non, il y a Dieu qui est derrière tout cela. Verset 10. Il appela l'époux, lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Donc, finalement, ils ont eu trois vins successifs, le bon vin, le moins bon, et puis alors un meilleur que le bon vin. Alors, c'est extraordinaire que ça se termine comme ça, quand même, hein. Il a goûté le vin, il l'a trouvé encore meilleur. Pourquoi épuiser toutes les autres possibilités avant d'essayer Dieu? Finalement. Des fois, on essaye de se débrouiller par nos propres moyens, par notre propre logique, par notre intelligence. Ah oui, parce que bon, on est quand même intelligent, hein, on raisonne, on sait ce qu'il faut faire, on connaît les choses, on connaît la vie. Non, on va faire. Mais parfois, il vaut mieux demander à Dieu. Et les choses se passeront peut-être plus simplement et plus facilement. Vous savez, c'était mon cas. Moi, je croyais que la science était capable de tout expliquer. J'étais un féru de science. Alors, évidemment, pour moi, voilà. Non, le Dieu, il n'y a pas de Dieu et... voilà, la science explique que ça, comme ça. Voilà. Alors j'aime toujours la science, hein, mais je ne la vois plus de la même manière. Je me suis aperçu qu'il y avait un architecte, qu'il y avait quelqu'un qui était derrière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de jolies choses, qu'on détruit, mais qu'il y a quand même des jolies choses. Et c'est vrai que les scientifiques, ils ont cette capacité de vous expliquer comment l'univers est apparu. Enfin, oui, on essaye, en tout cas, par l'intermédiaire du Big Bang et autre chose, l'évolution de l'univers, son destin même, comment il va peut-être finir, il y a plusieurs possibilités. Mais on n'explique toujours pas quel en est le but, et pourquoi il est apparu, pourquoi nous sommes là. Quel est le but de notre présence? Pourquoi il y a des hommes? Toutes ces choses, la science ne peut pas l'expliquer. Le comment, elle peut, mais le pourquoi, non. Dieu donne la profusion, et parfois nous sommes timorés quand nous prions. Alors que Dieu donne au-delà de nos espérances, parce qu'il est amour. Dieu se surpasse toujours lui-même dans ses dons. Et la remarque de l'organisateur, finalement, montre à quel point Jésus a donné la mesure de l'excellence du vin, puisqu'il est encore meilleur que le soi-disant bon vin. Ce que j'ai remarqué dans la première partie du verset 10, c'est que l'organisateur ne s'est pas vanté. Oh, j'avais prévu, hein, vous savez, j'avais mis des jars de côté, là, et il y avait plein, oh là là, vous n'en faites pas. Non, non, mais je suis l'organisateur, donc attendez. Non, au contraire, il dit au marié, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Étonnant, non? Elle aurait pu lui dire, ben non, c'est moi qui avais mis de côté. Non, 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 non. Il a évité de se mettre en avant. Il est resté humble. Je pense que c'est aussi un message pour nous de rester simple. Qu'on exerce un ministère ou pas. Toutes les fois qu'on a pris une initiative et réussi quelque chose dans l'Église, restons simples. Ce n'est pas nous qui faisons les choses. Si les choses réussissent, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est derrière. Il y a un organisateur là-haut. N'oublions jamais qu'en dernier lieu, c'est la grâce de Dieu qui agit. Le marié était au courant, bien sûr, qu'il y avait eu plus de vin, peut-être. Peut-être, ou en tout cas, le marié et l'organisateur étaient devant et face à une grâce qui les dépassait. Voilà, je vais terminer ici avec le dernier verset, le verset 11. Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Je m'arrête là parce que je pense que ce verset résume parfaitement ce que je vous ai partagé. Amen.